ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Allez, on retrouve tout de suite Bertrand Lamure, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, de quoi allez-vous nous parler? De quoi est fait votre humeur littéraire cette semaine?
Mon humeur, elle est globalement positive. Alors, en fait, je me suis dit qu'après un week-end où il a fait beau,
ouais.
Après un lundi où il a fait
tellement gris,
je crois.
Ouais.
Voilà.
Ah oui.
Et je crois qu'il était temps de parler de nature.
Ah,
et je crois que je n'avais encore jamais abordé, et ça je m'en excuse, une collection absolument magnifique chez Actes Sud qui s'appelle la collection Monde Sauvage. Alors c'est une collection il doit y avoir une dizaine de livres maintenant. Alors cette idée de cette collection, elle vient en particulier de personnes comme Baptiste Morisot. Et l'idée première, c'était de mettre en commun. C'est-à-dire mettre en commun des personnes qui ont des parcours singuliers, qui sont évidemment très à l'écoute de la nature par leurs travaux, par leur vie, et d'être un petit peu des ambassadeurs de la nature, mais surtout du monde sauvage. Et j'en ai lu un certain nombre que je trouve absolument flamboyant. Et donc je voulais commencer par celui qui pour moi incarne le mieux cette idée du monde sauvage avec des lectures passionnantes, c'est justement Baptiste Morisot. Alors Baptiste Morisot, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un philosophe, mais c'est aussi quelqu'un qui est au cœur de la nature. On pourrait le qualifier de pisteur. Pisteur dans le sens où lui il va pister les traces animales, il va pister le vivant. C'est absolument magnifique. Alors, ce qui est intéressant, je me suis fait la réflexion ce week-end, dimanche, où on se baladait à Saint-Cyr-le-Chatou, donc pas loin d'ici, village magnifique, attention. Hein. Et je me suis dit, beaucoup de monde, beaucoup de voitures, beaucoup de quads, beaucoup de crosses, beaucoup de déchets, et on est pourtant en pleine nature. Et je me suis dit, voilà, c'est la nature, mais en fait, c'est plus vraiment la nature. Hein.
Ouais.
C'est juste une sorte de terrain de jeu pour caladois en détresse. Et avec Baptiste Morisot, c'est quelque chose de... C'est autre. Donc lui, il est... il est ce pisteur. Et même dans l'idée que lui, quand il va pister, il dit il va dans le bush. Alors dans le bush, il dit, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je vais sur ces terres, on va trouver les traces animales, on est loin de nos sentiers du Beaujolais, très très sympa, hein, que je fréquente beaucoup, mais où on a nos panneaux de direction, où on voit de temps en temps un chevreuil, on dit, putain, ça y est, c'est génial, c'est le plus beau moment de ma vie.
Ouais, c'est voilà. Pas très sauvage, quoi.
C'est pas super sauvage.
Ouais.
Voilà. Et du coup, alors... Il avait fait un premier livre qui s'appelait « Sur la piste animale ». Un très très beau livre sur la piste animale où justement il va pister le loup. Il va pister le loup et il explique comment à 4h du matin, alors qu'il est avec un berger et son troupeau, et il tombe sur le loup. Quoi. Le loup est à 40 pas de lui et voilà, c'est des rencontres uniques. Et évidemment, là, il sent la force animale, il sent le vivant.
Ouais.
Véritablement ici. Donc lui, c'est vraiment l'idée, il a cette expression de s'enforester.
Et
il l'a fait pareil à Yellowstone aux États-Unis, dans plein d'autres endroits.
Et il nous emmène alors dans le bush.
Alors en fait, il pourrait nous emmener dans le bush, mais pour lui,
je connais pas ce mot. Le...
Alors le bush, tu sais, c'est le bush australien, c'est-à-dire ces grandes terres sauvages inexplorées, inexploitées, et qui font que ça peut être ce bush qu'on peut trouver. Alors nous, en France, on n'a plus vraiment de ces terres qui sont ces terres sauvages, c'est-à-dire ces forêts primaires qu'on peut trouver encore en Amérique du Nord, un petit peu dans certains territoires. Nous, ça y est, on a tout arpenté, etc.
Oui.
Et du coup, c'est là que véritablement, on va être un peu en osmose avec la nature. Et justement, dans un autre texte de lui, qui est Manière d'être vivant, qui est un peu plus récent, qui est toute une série d'articles, en fait, il revient sur quelque chose qui est, je trouve, absolument extraordinaire. Par exemple, en quatrième de couverture de ce livre, il va dire « Imaginez cette fable. Une espèce fait sécession. Elle déclare que les 10 millions d'autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la nature. À savoir, non pas des êtres, mais des choses, non pas des acteurs, mais le décor, des ressources à portée de main. Et là, je l'avais entendu où il parlait d'une expression qu'il détestait, qui était la protection de la nature. Il disait, mais c'est quoi ce délire de se dire que nous, humains, on va se dire, allez, on protège la nature. Mais de quel droit on protégerait la nature? Parce qu'on fait partie de la nature. Mmh. Et pourquoi nous, on aurait un peu comme le grand Manitou qui va protéger les petits, etc. Et j'ai trouvé que c'était tellement vrai. On s'est arrogé quelque part ce privilège ou ce devoir de protéger la nature, mais on fait partie de la nature. Enfin voilà, c'est très très intéressant sur ces textes-là. Mmh. Et du coup, ça ouvre la porte à plein d'autres expériences, d'autres auteurs, en dehors de Baptiste Morisot, qui pour moi est je trouve essentiel à lire à un moment ou à un autre, que ça soit sur la piste animale ou manière d'être vivant. Son dernier, Raviver les braises du vivant, et reprend un peu certaines choses vues auparavant. Un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu, parce qu'il est rempli de poésie. C'est un livre, donc toujours dans la collection Monde Sauvage, un livre de Laurent Tillon. Et Laurent Tillon a écrit un livre qui s'appelle « Être un chêne ». En fait, c'est magnifique. Quand il était gamin, quand il était ado, il se baladait dans la forêt de Rambouillet, et avec son vélo, etc., sur un sentier. Et il tombe face à un chêne. Et ce chêne, c'est le choc de sa vie. Il est grand, il est majestueux, il a 200 ans, donc c'était il y a 40 ans, et il considère que c'est l'arbre de sa vie. Et il va le suivre, il a 40 ans, ça fait 40 ans, enfin pas 40 ans, mais du coup 25 ans qu'il le suit, et qu'il va le voir régulièrement. Et il nous raconte la vie de Quercus. Alors Quercus, ce n'est qu'un arbre, il dit qu'il y a 3000 milliards d'arbres sur Terre. Ouais. Mais cet arbre-là, qui a 240 ans, eh bien, il essaie d'en faire son histoire. Il essaie de voir comment, effectivement, cet arbre, il est en lien avec lui. Et je me suis dit, c'est beau de se dire qu'on choisisse un arbre. Aujourd'hui, les arbres sont vraiment au cœur. Hein. On avait eu le très beau livre de Vollenben sur, justement, comprendre la vie d'un arbre. Et là, c'est un texte poétique et en même temps, on a tous envie, en le lisant, de dire, voilà, il faut que je me trouve mon arbre.
Moi aussi, je dois trouver mon arbre. Oui, c'est vrai, ça donne envie.
Ça donne, envie. Je continue, à un moment, je dois m'arrêter, mais pour l'instant, comme je n'ai pas de gong, je continue. Avec un autre, toujours dans la collection Monde Sauvage, d'un homme qui s'appelle Yves Elie, qui est un documentariste, et qui est revenu dans les Cévennes, mais dans les Cévennes, les Cévennes un peu sauvages, et il s'est mis en osmose avec l'abeille noire, donc cette fameuse abeille qu'on voit beaucoup dans le sud et entre autres dans les Cévennes, qui a une force d'adaptation, parce qu'on est sur des terres très froides, très pauvres, et donc on a ces abeilles qui se sont adaptées. Et pareil, c'est de nouveau un très beau texte sur la beauté du vivant, l'adaptation du vivant, et la manière dont nous, on doit aussi faire partie de ce vivant et non pas être dans le protecteur de cette nature, parce que ce sont des petits faibles et nous, on est des grands gentils, bien évidemment. Et alors, il y a de très très belles illustrations dans ce livre et il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui est la déclaration universelle de l'abeille. Et alors là, j'ai trouvé ça fabuleux qu'on fasse une déclaration universelle des droits de l'abeille, l'article 1. L'abeille a le droit à la tranquillité, à la sédentarité de ses colonies et à être dérangée par l'homme aussi rarement que possible. Et pour le côté sympathique, l'article 6, la reine des abeilles et sa cour choisissent souverainement les mâles reproducteurs pour l'avenir de leur peuple. Voilà. Et il y a comme ça 11 articles. Très bien.
La déclaration universelle des droits des abeilles. Donc c'est dans la vallée de l'abeille noire de Yves Elie. C'est ça?
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Toujours dans cette collection.
Toujours dans cette collection Monde Sauvage. Et je suis obligé de finir avec Vinciane Després.
Ouais.
Parce que Vinciane Després fait vraiment partie de la bande de Morisot et autres. C'est pareil, elle est philosophe d'origine, enfin elle est belge, même pour d'origine. Et elle, alors, donc pareil, elle gravite autour de ce monde-là et elle vient de sortir, mais je n'ai encore pas lu celui-ci, qui est l'autobiographie d'un poulpe. Et du coup, là, elle nous emmène presque dans un récit d'anticipation sur, pareil, sur l'avenir, l'avenir du vivant. Et il me reste à lire, dans cette collection que je trouve passionnante, « Penser comme un iceberg », que je n'ai encore pas lu, mais qui doit être passionnant, et « L'ours, l'autre de l'homme ici ». Tellement les liens depuis la préhistoire sont forts entre l'homme et le vivant.
Donc, je suis curieux de découvrir aussi l'autobiographie d'un poulpe, c'est surprenant. Merci beaucoup Bertrand Lamure pour nous faire découvrir cette jolie collection.
Tout à fait, je vous laisse vous enforester à merveille.
Merci beaucoup encore une fois, à très
bientôt.
Bonne
journée, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Ensemble sur Calade.